du féminisme dans ta radio.
And we want revolution. Girls talk.
Superlative délice sur Antenne Doc.
Bande de connes.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Tous les premiers dimanches du mois à 14h.
Et en rediffusion le jeudi qui suit à 14h aussi.
Ferme ta braguette.
Et prends-en de la graine.
Superlative délice.
Superlative.
Bonjour et bienvenue dans cette 6e émission de Superlative Délice sur Antenne Doc. Nous sommes très contentes ici autour des micros de vous retrouver après cette petite coupure de l'été. On a toujours Fred à la technique derrière la vitre.
Bonjour les filles.
Salut.
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 Toujours Pauline, mon acolyte.
Salut.
Et puis une invitée spéciale pour cette fois, Sarah.
Bonjour.
Voilà. Donc cette 6e émission, qu'on a appelée « Avortement, les femmes décident », sera donc, vous vous en doutez, consacrée à l'avortement, puisque ce mois de septembre va présenter un événement à ne pas manquer, qui est la Journée internationale pour le droit à l'avortement dans toute l'Europe. Voilà, elle se déroulera le 28 septembre, avec plusieurs manifestations autour de cette date. On parlera donc du droit européen et pas seulement du droit français. Et on verra du coup qu'on n'est vraiment pas logé à la même enseigne, alors même que des textes existent pour l'avortement. Donc à titre d'exemple, on peut citer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui en 1999 déclare, je cite, « L'interdiction de l'avortement viole les droits de la personne humaine. Le droit au libre choix doit sauver des vies. » Et puis, plus tard, il n'y a pas si longtemps, le Parlement de l'Union européenne déclare, donc en mars 2011, que, je cite, « L'Union européenne et les États membres doivent garantir aux femmes un accès aisé aux moyens de contraception ainsi que le droit à un avortement sûr. » On verra dans cette émission qu'on est loin des textes. Hein. Voilà, on peut citer quand même un petit chiffre choc. Une femme meurt toutes les 8 minutes des suites d'un avortement clandestin faute d'un accès aisé à la contraception et à un avortement sûr et légal. Voilà.
No comment.
Donc cette journée de mobilisation du 28 septembre, elle est organisée dans toute l'Europe par un immense regroupement de collectifs, d'associations et de syndicats qu'on ne citera pas tous, mais quand même quelques-uns. Le Planning Familial, la Ligue des Droits de l'Homme, qui serait temps d'appeler la Ligue des Droits Humains, la CGT, l'Association des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités de Proximité, et puis plein d'autres qui viennent aussi des différents pays européens. Pour continuer, on va directement lire l'appel.
L'appel à mobilisation, voilà. De ce collectif.
Ouais.
Pour le droit à l'avortement dans toute l'Europe. En solidarité avec l'ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des femmes espagnoles en 2014, polonaises en 2016, nous exigeons que les droits des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l'avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits fondamentaux pour l'égalité en Europe.
Aujourd'hui, le droit à l'avortement au sein de l'Europe relève de la compétence de chaque État. Interdit à Malte, sous haute contrainte en Irlande, en Hongrie et en Pologne, le droit à l'avortement, même légalisé, est, peut ou pourrait être remis en question par le maintien de la clause de conscience des médecins, en Italie par exemple, l'absence de structures hospitalières adéquates, en Grèce, en Bavière, les restrictions de personnel et les suppressions des centres pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières, comme en France, et dans tous les pays, par l'élection des gouvernements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades. Nous réaffirmons que
l'accès à l'avortement est un droit.
L'avortement est un choix personnel. Mon corps m'appartient. Je choisis ma vie.
Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification soient accessibles à toutes sur le territoire.
Des campagnes tout public sont nécessaires.
L'éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour qu'elles et ils puissent avoir des choix libres et éclairés.
La formation aux techniques d'avortement et à l'accompagnement doit faire partie intégrante de la formation initiale des professionnels et professionnelles de santé.
La clause de conscience des professionnels et professionnelles de santé doit être supprimée.
Les délais légaux pour avorter doivent être harmonisés sur ceux des pays les plus progressistes en Europe et les États doivent dépénaliser totalement l'avortement.
Nous appelons à la construction d'une mobilisation européenne autour du 28 septembre 2017, journée internationale du droit à l'avortement, où chaque pays inscrira ses revendications en vue d'une harmonisation européenne pour le respect des droits des femmes. Alors, il y a une pétition qui tourne sur Internet, qu'on vous invite à aller signer et puis à diffuser largement. Elle est sur le site avortementeurope.org.
Oui, et sur change.org.
Voilà. Et cette pétition sera apportée à Bruxelles au Parlement européen le 22 septembre. Donc, il y aura aussi une grosse manifestation à Bruxelles, enfin, qu'on espère grande, quoi. Manifestation à Bruxelles le jeudi 28 septembre à 17h30. Mais ça, on refera de toute façon un point agenda à la fin de l'émission. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur le site avortementeurope.org parce qu'il y a vraiment plein d'infos.
Il y aura des manifestations partout en Europe, ouais. De toute façon.
Oui. Voilà, on peut s'écouter un morceau avant d'enchaîner. La Gargote, Frélache numéro 12.
Donc du coup, ce dont on va parler un peu dans l'émission, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Europe, parce qu'on a 28 pays en Europe et on a une législation européenne sur l'avortement à 28 vitesses, en réalité. Sur les 28 pays, on a une dizaine de pays qui interdisent ou limitent de manière assez forte l'accès à l'IVG. Malte, par exemple, interdit totalement. Dans aucun cas, on ne peut avoir accès à l'IVG à Malte et on risque même jusqu'à 3 ans de prison. Et ce qui est fou, c'est que quand Malte est rentrée dans l'Union européenne, c'est un pays qui a obtenu de pouvoir garder cet interdit dans son traité d'adhésion à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Europe a donné le feu vert pour que les textes, type le texte de l'ONU, etc., que les textes sur les droits fondamentaux ne soient pas respectés. C'est quand même assez dingue. Donc cet accès en Europe est limité, en tout cas.
Et beaucoup de pays étaient entrés sans avoir déjà légalisé l'avortement, effectivement.
Oui, et puis il en reste encore, du coup.
Il en reste encore.
Donc ces pays-là, ils appliquent plusieurs restrictions à l'accès à l'avortement. En tout cas, ils posent des conditions qui sont assez drastiques, dont je vais parler. La première condition, c'est que l'IVG peut être accessible uniquement en cas de risque pour la vie de la mère, entre guillemets, donc en cas de danger de mort pour la femme. C'est le cas à Andorre, par exemple. Et en Irlande, il y a encore quelques années, l'accès était totalement interdit dans tous les cas. Et puis, il y a eu un scandale, en fait, suite au décès d'une femme qui a fait une fausse couche et à qui on a refusé l'IVG et qui donc est décédée. Et donc, en 2013, c'est-à-dire il y a 4 ans, il y a une loi qui a autorisé l'avortement pour sauver... On a autorisé les médecins à sauver la vie des femmes. Et le problème en Irlande, en fait, c'est que les droits du fœtus sont constitutionnels. La Constitution reconnaît des droits à la vie à venir, en fait. Et ça, c'est très problématique. Et c'est la même chose qui se passe en Hongrie depuis 2012, parce que ça y était pas avant, mais en 2012, Viktor Orban a fait un changement constitutionnel qui protège l'embryon dès la conception.
Du coup, c'est l'embryon ou le fœtus ?
En Hongrie, c'est l'embryon dès la conception.
Ah oui, en Hongrie.
Clairement.
Et donc en Irlande, c'est le...
C'est des droits au fœtus, mais du coup,
ouais.
Voilà.
Et ouais. On sait pas trop.
La vie à venir, la formulation, ouais. C'est la vie à venir.
Oui, donc on peut voilà. Supposer qu'à partir du moment où la femme apprend qu'elle est enceinte...
C'est la vie à venir.
Voilà.
Donc voilà, cette condition sur le risque de décès. À noter que l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, ajoute le risque de suicide, puisqu'ils ont eu des petits soucis de suicide aussi. Donc ils ont ajouté l'autorisation de l'IVG en cas de risque de suicide. Alors c'est pareil, c'est difficile à évaluer. Il y a une autre condition aussi qui s'appelle l'indication médicale. Donc qui s'applique soit pour préserver la santé de la femme, soit en cas de malformation fœtale. Mais ça signifie en général, pour préserver la santé de la femme, qu'il faut un accord de 2 voire 3 médecins. Donc c'est quand même un petit peu lourd et ça peut être long, surtout si on a une communauté médicale qui active beaucoup la clause de conscience.
Oui, cette clause de conscience, du coup, dire, c'est une clause qui permet aux médecins de ne pas pratiquer l'IVG. Voilà, mais on en reparlera en cours d'émission.
Voilà, et de même, malformation fœtale, c'est un petit peu flou comme terme. Alors, dans certains textes, on trouve risque fœtal, anomalie fœtale. Ça veut dire concrètement, qui décide en fait que cette dame peut avorter. Par exemple, en Pologne, l'autorisation d'avorter est donnée s'il y a une incapacité du fœtus à vivre après la naissance. Mais après la naissance, c'est quoi ? C'est 1 mois, c'est 2 ans, c'est... Voilà, c'est totalement flou, en fait, comme condition.
Et puis la malformation fœtale, on la voit quand aussi, quoi.
Oui,
puis,
voilà, c'est ce que j'allais dire. À partir de quel mois on voit la malformation ? On la voit
exactement.
Pas au début.
Oui, voilà. Donc on nage en plein flou législatif. Cette clause de l'indication médicale, elle peut parfois se cumuler avec quelque chose qui s'appelle l'indication sociale et économique. Alors ça, je ne sais pas. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est sur indication sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire indication
envoyer
sur
trois fiches de paye, les 3 dernières.
Oui, voilà. Le budget. Qui décide ? Il y a une autre condition qui est... notre possibilité d'application qui est en cas de viol et d'inceste. Dans la quasi-totalité des pays qui limitent l'IVG au viol, il faut que ce viol ait été l'objet d'une plainte, voire, comme en Pologne, que le juge donne l'autorisation pour avorter suite à la plainte. Je vous laisse imaginer le temps de procéder. Déjà, le fait que ce soit hyper compliqué d'aller porter plainte souvent en cas de viol, donc le temps d'y aller, que le juge donne dans un pays comme la Pologne.
Le temps de réaliser que t'es enceinte après un viol.
Voilà, donc je vous laisse...
De prendre conscience du viol aussi.
Prendre conscience du viol.
Donc voilà, ces restrictions, enfin en tout cas ces conditions, elles peuvent se cumuler les unes avec les autres selon les pays. Chaque pays fait un petit peu son combo et sa sauce. Par exemple, à Chypre, ils autorisent l'IVG sur indication médicale, en cas de malformation fœtale et en cas de viol, par exemple. Ils ont fait
ce mix-là.
Voilà. Et de même pour les modalités de prise en charge, c'est-à-dire que selon les pays, il y a une prise en charge totale du coût de l'IVG ou pas du tout, ou alors c'est pris en charge dans le public mais pas dans le privé. C'est pareil, il n'y a aucune harmonisation là-dessus en Europe. Donc ces conditions posées, finalement, voilà, on voit bien qu'elles sont totalement floues et qu'elles restent à l'appréciation d'un personnel médical ou bien d'un représentant de l'État. En tout cas, elles sont à l'appréciation de n'importe qui, sauf de la première personne concernée, et que du coup, c'est une prise de pouvoir sur le droit de disposer de son corps. Et donc ça concerne une dizaine de pays, et les autres concernant les 19 ou 20 autres pays, l'avortement est accessible sur simple demande, sans restriction particulière. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle à l'accès. Et ça, Emeline va peut-être nous en parler.
Oui, mais avant, on peut peut-être s'écouter une chanson.
Oui, allez.
Fille d'ouvrier, par exemple, de Agnès Bill. Enfin, ouais. Qui n'est pas de elle. Hein. Là, elle a été reprise par elle, mais ce n'est pas d'elle.
Pâle ou vermeil, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, joli bétail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur de ruelle, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole. Cher à patron, jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça devient belle de nuit, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, et un beau soir, pour deux balles, ça fait la culbute. Cher à trottoir, ça vieillit, et plus bas ça glisse, honteuse. Un soir, ça se fait prendre par la police, cher à flicard. Ou bien sans papier, ça travaille dans les bas-fonds. Alors ça finit sur la paille, cher à prison. Malade, souffrant le supplice, claquant des dents. Ça termine dans un hospice, cher à savant. Bien sûr, ça se regarde à la loupe, joli modèle. Quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Banquier, politicien, c'est bien fini. Quand vous tomberez entre nos mains, cher fusil. Pour que chaque chien sur votre ogne pisse à l'arrêt, nous leur laisserons vos charognes. Cher affumé.
Alors, comme Pauline le disait, je vais maintenant aborder les obstacles à l'IVG, parce que même dans les pays où c'est légalisé, autorisé, l'accès n'est pas très très aisé, finalement. Donc, on l'a bien vu, les lois seules ne suffisent absolument pas à garantir cet accès-là, et il y a vraiment un décalage entre les textes qui existent et les pratiques. Comme si, finalement, cet acte dérangeait, quoi. Parce que sûrement ça touche à l'intime, ça touche au corps, ça touche à la sexualité, ça touche à quelque chose qui est hyper tabou. Et tout ça sûrement aussi parce qu'on est encore bien dominé par des pensées religieuses bien ancrées. Et puis par des gouvernements réactionnaires qu'on élit. Voilà. Bon, c'est mon avis, Ce que finalement on retrouve un peu partout, c'est qu'on est quand même en 2017, au XXIe siècle, et qu'on n'arrive toujours pas, ou très peu, à affirmer qu'on a avorté. Et d'ailleurs, il y a plein de bouquins qui existent, « J'ai avorté et je vais bien, merci ». Voilà, c'est pour dire « oui, oui, ça existe, et c'est bon, c'est réellement un acquis, on l'a fait, on s'en sort bien ». On peut même, nous, le comparer à une femme qui va ouvrir un compte en banque, ou qui travaillent, c'était interdit jusqu'en 66 ou comme ça. Et maintenant, ça nous paraît complètement simple et ouais, voilà, désuet. Donc, pourquoi pas l'avortement ? Voilà, il y a du boulot, hein, mais pourquoi pas l'avortement ? Donc, il y a toujours un côté moralisateur et culpabilisant qui fait que ça reste tabou. En France, notamment, la classe politique, et notamment la droite et l'extrême droite, tente quand même de grignoter les acquis qu'on a par rapport à cette loi. On peut voir ça, par exemple, au moment des élections, où il y a beaucoup de programmes électoraux qui parlent de dérembourser certains actes médicaux liés à l'IVG. Toujours en France, il y a quand même 110 centres IVG qui ont fermé en 10 ans, alors que c'est pareil, dans les textes, ils prévoient un centre IVG dans chaque hôpital public.
C'est pas le cas.
Et ce qui est absolument pas le cas.
Absolument pas le cas.
Là, vous pouvez aller voir juste à côté de chez vous, je pense que c'est pas le cas.
Il y a eu une histoire en 2003. Il y a eu un chauffard qui a renversé une femme enceinte qui est décédée, et l'enfant qu'elle portait aussi. Et il y a un député qui a voulu, à cette occasion-là, créer un délit d'interruption involontaire de grossesse, qui a proposé cet amendement. Ça a été évidemment refusé, mais ça aurait été problématique parce que ça aurait ouvert une porte et une faille au fait de donner des droits en fait juridiques à un fœtus. Le droit à l'IVG aurait pu être mis en cause par cette faille-là en fait dans le fait de donner des droits juridiques. Voilà.
Il fallait y penser quand même. Oui.
Alors il y a une conséquence aussi, enfin une et plusieurs conséquences aux fermetures de centres et à toute cet éloignement géographique, c'est justement ça en fait. La conséquence, c'est l'éloignement géographique qu'on peut retrouver en France et aussi en Grèce. Alors en France, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, hein, il suffit de regarder juste chez nous dans le Lot, dans tout le département. Pour avorter, ben c'est la galère parce que qui c'est qui pratique l'avortement? Pas grand monde. Voilà, il faut aller à Cahors pour celles qui peuvent y aller. Et sinon, on a plusieurs connaissances autour de nous qui vont carrément à Paris ou à Toulouse parce qu'elles savent qu'elles ont des amis là-bas, qu'elles savent qu'il y a quand même des hôpitaux qui pratiquent l'avortement et du coup, elles préfèrent aller là-bas. Et on retrouve la même chose en Grèce, où la Grèce est formée de beaucoup de petites îles. Et comme en Grèce, donc c'est à peu près la même législation qu'en France, mais comme depuis la crise, donc qui a commencé en 2007, si je ne me trompe pas, la structure hospitalière a été démolie, enfin en tout cas maintenant elle est hyper bancale. Du coup, il y a le même problème, où il faut aller jusqu'à Athènes. Donc là, pour elle, il faut carrément prendre un bateau ou un avion pour aller avorter, quoi. Il y a aussi le fait que les rendez-vous, du coup, sont difficiles à obtenir, puisqu'il y a de moins en moins de centres IVG. Du coup, ils sont surchargés. Du coup, on n'a pas de rendez-vous dans des délais corrects. Donc c'est pareil, on peut vite être hors délai. Dans tous les cas, c'est a priori une galère, quoi. Et puis d'autant plus que, ça c'est pour la petite anecdote, à la limite on devrait complètement s'en foutre puisque la loi l'autorise, les chirurgiens ils n'auraient même pas à se poser la question, mais pour eux c'est une pratique qui est complètement inintéressante, donc ils s'en foutent complètement de pratiquer des IVG quoi, c'est juste aller aspirer un utérus.
C'est pas valorisant.
Voilà,
exactement. Et c'est pas rentable peut-être aussi.
Et c'est pas rentable.
Alors, l'année dernière... Quand il s'est agi de rembourser pour tout le monde l'IVG, y compris pour les femmes en situation irrégulière, la ministre a revalorisé la facturation de cet acte de 50%. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été augmentés, les médecins, pour pratiquer l'IVG. Oui. De 50%.
Quand même.
Oui, ce qui est pas rien, oui. Il y a aussi le fait que face à ces restructurations hospitalières, que ce soit toujours pareil en France ou en Grèce et peut-être dans d'autres pays, on n'a pas non plus épluché tous les pays, c'est que le personnel n'est pas remplacé. Donc entre l'éloignement géographique, la surcharge des rendez-vous et le personnel pas remplacé, c'est vraiment compliqué d'obtenir
Et les vacances d'été. Ah, dans l'autre, c'est compliqué. Tu n'avortes pas au mois d'août.
Ouais. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, sans parler des mineurs, et parce que voilà, là on voit une femme, on peut se dire, la femme elle a 40 ans, 35 ans, j'en sais rien, mais c'est celles qui n'ont vraiment personne, qui sont isolées, qui sont mineures, qui sont en rupture totale.
Qui n'ont
avec
pas de
leurs
moyens
parents,
de se déplacer en fait,
ouais,
c'est ça.
Ouais, ouais. Du coup, il y a un autre blocage justement, dont on parlait tout à l'heure, c'est cette fameuse clause de conscience des médecins, donc qui permet de refuser la pratique de l'IVG. En Italie, il y a quand même 70% des médecins qui l'appliquent. Et en France, le médecin qui l'applique est quand même tenu d'orienter la patiente vers un autre praticien.
Je veux pas le faire, mais par contre, tu peux aller voir mon collègue, il le fera peut-être, quoi.
Voilà. Ça affirme complètement que là, c'est vraiment un choix personnel, quoi. Les textes, ils en ont absolument rien à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve à Saint-Céré. La seule gynéco qu'il y a là-bas refuse par principe de pratiquer les IVG. Il y a un autre obstacle aussi, c'est la pression politique et religieuse qui est de plus en plus vive. Ils ont de plus en plus de poids dans toute l'Europe, et notamment l'Europe de l'Est,
mais dans toute l'Europe.
Mais les dans toute l'Europe, oui. Ouais. Oui, les du anti-choix. Coup, qui sont clairement pro-vie, donc anti-choix. Et qui forment plein de mouvements ou d'associations catholiques, pour la plupart, comme, pour en citer quelques-uns, parce que leurs noms, ils font rêver quand même, la Fondation Le Jeune, Les Survivants, ou choisir la vie.
Les survivants étant des survivants de ce génocide, ils sentent encore leurs frères et sœurs qui n'ont pas eu,
n'ont pas connu et qui ne connaîtront jamais.
Voilà.
Donc, ces mouvements-là et ces associations, donc ces gens pro-vie, maîtrisent très 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 bien les outils informatiques et ils sont plutôt à fond sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils participent activement à une désinformation de masse en ancrant dans la tête des gens plein d'idées reçues, voire complètement fausses. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a cette fameuse idée d'IVG de confort à mettre entre de gros gros guillemets. Et donc, c'est cette idée de dire que ça coûte rien, que c'est hyper facile et accessible, qu'il n'y a aucun problème, quoi.
Que avorter, c'est utilisé comme contraception.
Oui, voilà. Ouais. Ça, je pense qu'on l'a quand même plus ou moins tous et tout entendu, quoi.
Et ils font des jolis tags au sol dans Paris. Et en fait, tu marches et tu te dis « Oh, un artiste de rue, c'est plutôt... » En plus, c'est vraiment au premier abord, quand tu ne sais pas encore, tu te demandes un peu, c'est plutôt... Ça va, quoi. Et puis après, en fait, tu captes que c'est un fœtus dans un grand cercle et que... voilà, tu as ça dans un peu tout Paris, au sol.
C'est du street art.
Voilà, ouais. Du street art.
Face à ces obstacles, on peut quand même dire qu'en France, le délit d'entrave à l'IVG existe. Donc, il est interdit de s'opposer à un avortement. Mais là, du coup, pour moi, ça rejoint toutes les restrictions que Pauline a citées. Comment on fait, quoi?
En tout cas, sur Internet, le délit d'entrave numérique, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, comment tu le fait est que tous ces sites sont encore en ligne.
Voilà.
Tous les moments où les psychologues essayent de dire, de moraliser, de faire changer d'avis, etc. Enfin, tous ces moments-là ne sont pas considérés comme des entraves ou des tentatives d'empêcher, alors que c'en est, quoi. Notamment sur des personnes plutôt jeunes et tout ça, quoi.
Et oui. Donc, après ces bonnes nouvelles, on peut écouter les têtes raides, l'hermaphrodite.
J'ai la gueule ostensiblement pas portée au pinacle. Je trimballe mes gambettes, mes deux allumettes. Dans la nuit qui s'étale ostensiblement sur ma culasse. Vous les hommes, vous ne savez pas quand une femme vous aime ici-bas. Vous ne savez pas ce qu'elle ose. Mes promesses les brûlantes sous tes caresses. Je serai plus folle encore, tu seras mon picador. Je veux vivre sans raison, mes silences et ma trahison. Vous les hommes, vous ne savez pas qu'une femme, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. J'ai la gueule, naturellement, le boyau en dérive. Je ramène ma carcasse dans mon lit à deux places. c'est la ville, ça se faufile naturellement. Chacun sa place. Vous les femmes, vous ne savez pas. Quand un homme vous aime ici-bas, vous ne savez pas ce qu'il ose. Mais oubliant mon adresse, mon plumard et ma maîtresse, je serai plus fort encore une fois, Matador, une fois encore ma Susan. Je défierai l'horizon, vous les femmes, vous ne savez pas qu'un homme s'est fait comme ça, s'est fait comme ça. Vous les hommes, vous ne savez pas. Vous les femmes, vous ne savez pas.
Moi, je voudrais juste faire un petit point avant qu'on poursuive. C'est une façon de poursuivre, mais je voudrais faire un petit point sur les chiffres. Parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué d'obtenir des chiffres précis sur l'avortement quand celui-ci est réalisé illégalement. Donc ça concerne les pays où l'avortement est interdit ou restreint. À ce moment-là, c'est évidemment super compliqué d'avoir des chiffres. En revanche, on a des chiffres qui concernent les complications qui suivent les avortements illégaux, voire les décès. Je rappelle qu'on n'est pas loin de 50 000 femmes par an qui meurent des suites d'un avortement illégal. Et donc les chiffres des complications, eux, on les a, et ils permettent d'extrapoler en fait d'autres estimations sur le nombre d'avortements clandestins, quoi. Et les chiffres, ils sont aussi assez compliqués à avoir dans les pays où l'avortement est autorisé, sur avant l'autorisation, c'est-à-dire par exemple en France, avant 75. C'est un peu compliqué d'avoir les chiffres d'avant 75. Heureusement, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont compétents et qui font des estimations assez précises, on l'espère, notamment à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Donc on peut avoir plein de chiffres sur l'avortement en France sur leur site, par exemple. Et on apprend pas mal de trucs en regardant ces chiffres-là, parce qu'on entend souvent dire que le nombre d'IVG a augmenté, ou qu'au contraire, il est super stable depuis 76 et que ça n'a pas baissé, etc. En fait, un chiffre, ça se décrypte et ça s'analyse. Et juste un comptage bête et méchant, ça suffit carrément pas. Il y a plein de choses à prendre en compte, notamment juste simplement l'augmentation du nombre de femmes en âge de procréer, en 40 ans. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait le même nombre. Le développement de l'accès à la contraception et de l'accès, en fait, tout simplement. Et puis aussi, l'allongement du délai. On est passé de 10 à 12 semaines. Ça change des choses pour les chiffres aussi. Donc, dire simplement il y a tant d'avortements, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, moi, j'aime bien utiliser le taux d'avortement pour 1000 femmes. Je trouve que c'est un petit peu plus clair, du coup. Quand on regarde ce taux, finalement, on s'aperçoit que de 76 à aujourd'hui, on est passé de 20 avortements pour 1000 femmes à 14,5. Voilà, donc clairement, ça a baissé. L'INED estime même que avant 75, l'avortement concernait jusqu'à une femme sur deux, et on est plus à une femme sur trois aujourd'hui. En faisant ce petit point, je me suis demandé aussi pourquoi finalement c'était si important de faire absolument baisser ce chiffre, comme s'il était vraiment problématique, quoi. On constate, et tu t'en as parlé aussi tout à l'heure, Émile, c'est que l'avortement est systématiquement envisagé comme un échec. C'est une défaite, un avortement, et c'est systématiquement présenté comme un échec. L'IVG, c'est pas un échec, c'est même plutôt une solution. C'est-à-dire que c'est une solution à un problème, le problème c'est la grossesse non désirée, et l'IVG est une solution à ce problème. Donc une contraception peut échouer, elle, mener à une grossesse non désirée, et à ce moment-là l'IVG est une solution, et lui, il loupe rarement, il échoue rarement l'IVG en réalité. Donc je pense que de ne pas l'envisager autrement que comme un échec, quelque chose de grave, voire un drame, eh ben, c'est encore faire porter une forme de culpabilisation, de honte, voire de totale infamie sur les femmes, alors qu'il s'agit juste d'exercer un droit. Comme un droit de vote, par exemple. Un droit qui est légitime et qui n'a pas à être normé ou à porter une quelconque représentation, quoi. Donc visiblement, avoir un droit légitime et facile d'accès pour les femmes, ça a l'air un peu compliqué encore. On n'aime pas trop ça, visiblement. Donc, soit, si le but, c'est de faire baisser le nombre d'IVG, on sait ce qui marche. Par l'expérience des pays où l'IVG libre est interdit, on voit très bien que ça règle absolument pas le problème, si tant est que ce soit un problème, mais si on admet que c'est un problème, on voit bien que dans les pays où l'IVG est interdit ou restreint, que ça ne fonctionne, ça ne fait pas baisser le nombre d'IVG, que les femmes sont au contraire obligées d'aller à l'étranger, pour celles qui ont de l'argent, hein, ou à bien de le pratiquer clandestinement dans des conditions sanitaires dangereuses. Et en fait, ça impose une précarisation encore plus grande de cet acte pour les femmes qui veulent y avoir recours. On le sait, c'est sûr et certain, il n'y a pas à ergoter là-dessus. Si on empêche les femmes d'avorter, elles avortent quand même. C'est une certitude. C'est un postulat de départ. La seule chose qui marche, et on le sait, et on en a la preuve, c'est l'éducation et l'accès à la santé sexuelle. L'information, la contraception choisie de manière éclairée. Et l'éducation, Les contraceptions. Et je vous invite à voir ce qui se passe dans les pays scandinaves, les pays du nord de l'Europe, qui ont une politique d'éducation sexuelle qui est quand même un peu au top. Allez voir ce qui se passe là-haut, c'est vraiment intéressant. Contrairement, par exemple, aux pays d'Europe de l'Est, où il n'y a aucun engagement politique sur cette thématique-là, et où on a un taux de 42 avortements pour 1000 femmes, alors qu'en Europe de l'Ouest, de notre côté, on est à 18 pour 1000. Si on prend toute l'Europe de l'Ouest.
Voilà. C'est des gros packages quand même.
On fait des packs. Si on fait des packs Europe de l'Est, voilà, il y a quand même un souci par rapport à ça. Donc voilà, grosso modo, on peut dire que plus l'IVG est légal et accessible et que la contraception est accessible et qu'il y a de l'information, moins on avorte. Et du coup, on peut peut-être faire un petit focus sur ce qui s'est passé en Espagne ces dernières années, parce que c'est pas mal intéressant, Sarah.
Ouais, bah alors c'est assez intéressant parce qu'en Espagne, du coup, l'avortement était... Alors, il avait été dépénalisé depuis 85 et puis en 2010, il avait été rendu accessible à toutes, puisque du coup, en 85, c'était uniquement ce que tu as dit un petit peu sur les combos, là, un combo entre seulement en cas de viol et de atteinte à la santé psychique et physique de la femme. Et du coup, en 2010, le gouvernement de l'époque, qui était PSOE, donc PS, on va dire, équivalent PS, avait fait une réforme qui le rendait accessible. Et puis du coup, le gouvernement revenu à droite quelques années plus tard a entrepris une grosse réforme pour revenir 30 ans en arrière, en fait. Sauf que, il y a eu une très très grosse mobilisation qui a dépassé les frontières espagnoles. Une mobilisation en fait qui a commencé par des manifestations dans les grandes villes espagnoles, à Madrid, je pense à Barcelone aussi, mais aussi qui ensuite a donné lieu à des trains, ce qui s'est appelé...
Les trains de la liberté.
Voilà, les trains de la liberté.
Qui venaient de toute l'Europe pour le coup.
Et qui venaient, tu me disais même, jusque d'Argentine
ouais,
aussi. Enfin, vraiment.
Les femmes argentines ne venaient pas en train, mais elles se sont déplacées quand même jusqu'en Espagne.
A priori, mais voilà. Donc c'est vraiment une mobilisation qui a été hyper importante. Faut bien voir qu'en plus, ça a été pour ce gouvernement, on va dire, donc le PP, c'est le parti de droite. On ne peut pas donner d'équivalence entre nos partis, on va dire ici, mais parce que c'est un parti qui est très à droite, très conservateur, dans lequel il y a énormément encore de restes du franquisme, c'est-à-dire des franquistes, encore présents, y compris des gens qui avaient été dans le gouvernement franco, et que par exemple, la première mouture de cette réforme-là, elle avait été faite par un mec de l'Opus Dei quand même. Et du coup, là, le deuxième, ce Gallardón, qui a porté cette loi-là jusqu'au bout, c'est-à-dire plutôt jusqu'à l'échec et qui du coup est tombé avec, lui, son père avait aussi été un anti-abortiste, très très forcené, on va dire. Donc, par exemple, quand Rajoy l'a mis, lui, comme porteur de ce projet, il était conscient qu'il donnait un signal très très fort aux conservateurs, quoi. Donc vraiment, cette loi-là, ça a été une proposition qui a été faite à l'Église catholique et aux conservateurs qui, en Espagne, ont donc cette puissance vraiment très importante. Du coup, la mobilisation là dont on parle, c'est quand même une énorme victoire et c'est quelque chose qui a été, voilà, qui a été hyper important et qui a permis aussi dans d'autres pays de porter le sujet. Je pense que du coup, tu vas nous parler aussi de la Pologne. Mais voilà, qui a permis un peu de dire un peu les reculs qu'on était en train de voir apparaître en Europe et les combats qu'on avait à mener, quoi.
Oui, puis c'est comme ça aussi que même en France, on a quand même entendu... En entendant, ça a résonné comme « Ah merde, en fait, un acquis n'est pas acquis, quoi. » Voilà. Et donc, même en France, tout d'un coup, il y a eu des prises de conscience, quand même, par rapport à ça. Et du coup, en Pologne, elle a été condamnée 3 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir attaqué les droits des femmes et pour la non-application de sa propre loi. Il y a eu 2 projets de loi portés par le gouvernement, un en 2015 et un en 2016, pour limiter encore plus l'accès à l'avortement qui était déjà bien restrictif. Et là, c'est pareil, comme pour l'Espagne, il y a eu une grosse mobilisation nationale et européenne aussi. Alors, je n'ai pas entendu parler que les Européennes se sont déplacées en Pologne, mais il y a eu des manifestations dans les pays pour en soutien. En Pologne, on les a appelés les parapluies noirs parce que ce sont des femmes qui se sont déplacées avec des parapluies noirs. Et puis finalement, face à cette mobilisation, le gouvernement a cédé et du coup la loi n'a pas été modifiée. Il y a eu en plus des manifestations quand même qui ont été importantes, il y a eu une grève quand même massive des femmes, donc dans le travail domestique, et puis aussi plus intimement de leur activité sexuelle. Donc elles ont vraiment refusé... toute contribution
la grève des ventres
tant que cette proposition de loi n'était pas refusée.
Alors du coup ce mouvement polonais, il s'est appelé Czarni Protest, qui veut dire protestation noire, et on va s'écouter un morceau qui a été composé par des meufs du Czarni Protest.
On ne parle pas polonais, et peut-être que vous non plus, mais dans la vidéo de YouTube, les paroles sont traduites. Donc du coup, ça s'écrit C-Z-A-R-N-Y, proteste, P-R-O-T-E-S-T.
Voilà, et du coup, pour conclure, on voudrait réaffirmer que le droit des femmes à disposer de leur corps est un droit fondamental, et que pourtant, partout dans le monde et aussi en Europe, on a seulement 40% des femmes qui ont un accès à peu près libre à l'IVG, donc c'est même pas la moitié, et que les autres sont condamnées soit à des grossesses forcées, puisque appelons les choses par leur nom, soit à une clandestinité et une précarité qui peut mener à la mort, clairement. Je voudrais rappeler la phrase de Simone de Beauvoir qui a dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Donc, je pense que la crise économique, politique et religieuse, on est à peu près dedans, à l'échelle mondiale. Et que du coup, il ne faut surtout pas imaginer que ce qui est acquis est acquis. Donc, on parlait du droit de vote, mais voilà, si demain on vous explique que votre droit de vote est restreint ou supprimé, on penserait que c'est un canular parce que c'est simplement impensable. Et que pourtant, ce droit acquis pour les femmes de disposer de leur corps, lui, il est bel et bien malmené, mis en péril et grignoté un petit peu de tous les côtés. Alors que, comme le droit de vote, il est absolument non négociable. Et notre ventre est toujours en 2017 une zone de combat où s'affrontent l'État, les religieux, le patriarcat, alors que ce ventre, il n'appartient qu'à nous. Et c'est pour ça que cette journée du 28 septembre, elle est importante pour que l'IVG soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que toutes les européennes aient un droit harmonisé sur les pays les plus progressistes et un accès qui soit le même pour toutes. Voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur justement le droit européen, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez trouver des documents avec des législations comparées qui sont hyper bien faits. Donc il y a un tableau comparatif des législations européennes qu'on trouve en PDF, qui est fait par le planning familial, et qu'on trouve sur le site qu'Emeline a cité, sur lequel il faut absolument se rendre, qui s'appelle avortementeurope.org, donc en minuscule tout attaché, avortementeurope.org. Vous trouverez aussi un document qui est très bien fait, une législation comparée entre 8 pays. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que des pays européens, il y a aussi les USA et la Suisse. Et celui-là, on le trouve sur le site du Sénat. Donc sur sénat.fr, vous allez dans l'onglet Travaux parlementaires, puis dans Rapport et dans Rapport d'info. Et si vous voulez vous informer en général sur l'accès à l'IVG en France, si vous avez besoin d'avoir accès à une IVG, vous appelez le numéro vert 0800 08 11 11. Ou bien vous pouvez aller vous informer sur le site ivg.social-santé.gouv.fr où tout le parcours IVG avec vos droits est résumé.
Et puis on peut rappeler aussi d'aller signer la pétition et d'aller la partager aussi. Donc la pétition qu'on trouve toujours sur le même site avortementeurope.org ou sur le site change.org. Vous tapez pour le droit à l'avortement partout en Europe et vous tomberez directement dessus. Du coup, on se fait un point agenda ?
Oui, parce que pour cette mobilisation, il y a des manifestations partout en Europe, en fait, et peut-être près de chez vous.
Enfin, on peut rappeler aussi quand même la manifestation à Bruxelles, qui aura lieu le 28 septembre à 17h30 et qui part du quartier européen. À cette même date, à Lyon, à 18h30, il y a un rassemblement Place de la Comédie. À Marseille, donc toujours le 28 septembre, il y a un rassemblement sous l'ombrière du Vieux-Port. Et quand même un peu plus tôt dans le mois, à Lyon, désolé, je ne l'ai pas trop fait dans l'ordre, donc le 16 septembre à 14h, le lieu n'est pas encore défini. Il y a un tour opérateur des consulats avec des surprises devant chaque consulat. Voilà.
Ouais, j'ai pas eu de plus de précisions, mais on imagine qu'ils vont faire le tour des consulats de différents pays qui posent problème.
Ouais, j'imagine ça aussi. Et puis, beaucoup plus localement, pour le coup, on est en train de préparer, avec le planning familial du Lot, une projection qui aura lieu au cinéma Robert Doisneau à Biars. Alors là, on a encore moins de précisions, ce sera sûrement début octobre, avec un film qui sera sûrement très bien, mais qu'on ne connaît pas encore, parce que...
On a une idée, mais on ne peut pas l'annoncer encore, voilà. On n'est pas sûr.
Ce sera une surprise aussi.
Fred vous l'annoncera sur Antenne Doc, on espère, quand on aura l'heure, le lieu, le film. Fred vous l'annoncera et on espère que vous viendrez nombreux parce qu'après la projection, on pourra discuter.
Ouais, complètement. Et il me semble qu'il se passe aussi quelque chose à Aurillac, qui n'est pas très loin
oui,
de chez nous aussi.
Oui, chez les copines du planning d'Aurillac. Le 28 septembre, elles organisent un libre débat avec leur partenaire de la Libre Pensée, qui est une association nationale qui organise beaucoup de débats un petit peu partout sur un tas de thèmes. Et du coup, ils organisent un libre débat sur l'IVG dans l'Europe et dans le monde qui sera axé sur le rapport entre les femmes et le religieux. Donc, je vous invite à y aller. Ce sera à 18h dans le bâtiment de l'horloge, Place de la Paix.
Et puis, il y aura forcément des choses à Toulouse, à Paris et dans toutes les autres villes. Donc, juste, c'est que ce n'est pas encore annoncé. Voilà. Faut rester
vigilante.
Vigilante.
Et vigilant. On a pas mal parlé on a fait allusion, on en a parlé du planning familial qui est quand même une des associations vraiment porteuses de cette mobilisation. En fait, il se trouve que dans le Lot, si vous ne le savez pas encore, il existe un planning familial, qu'on a quand même besoin de monde. Donc si vous êtes disponible et si cette émission vous a fait tilt, vous pouvez nous rejoindre à Figeac ou s'insérer. Donc pour nous rejoindre, vous pouvez directement aller sur le site du Planning Familial National et vous trouverez toutes nos coordonnées. Si vous êtes directement dans le Lot à Figeac, par exemple, vous pouvez aller au 12 avenue Fernand Pezet.
Le lundi
de 17h à 19h, où il y a la permanence. Donc vous vous présentez, vous serez forcément bien accueillis.
Concernant l'émission, vous pourrez nous réécouter jeudi prochain en rediffusion à 14h sur Antenne Doc. Vous pouvez, si vous avez quelque chose à nous raconter ou à nous suggérer, nous écrire sur notre adresse mail superlatifdelice@riseup.net, tout attaché et sans accent.
Et au pluriel.
Voilà. Vous pourrez aussi nous réécouter sur notre audioblog sur Arte Radio. Vous allez sur Arte Radio, vous tapez Superlatif Délice et vous pourrez réécouter cette émission et toutes les précédentes. Et les partager avec vos amis. Le mois prochain, on vous retrouve avec une autre émission qu'on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans, mais qu'elle va être super. Mais n'hésitez pas à nous retrouver donc, le mois prochain.
Et le premier dimanche du mois et puis le jeudi qui suit aussi, à 14h.
Merci Sarah d'être venue. Je sens que Sarah va revenir. On a des
moi,
idées avec Sarah.
Je suis très honorée d'être avec vous. Parce que j'écoutais Superlatif Délice chez moi et donc, je suis très honorée.
Tu vas revenir.
Je vais revenir.
Et Fred, tu reviendras.
Merci
aussi,
Fred.
Moi, je reviendrai, même si des fois il y a quelques petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas.
On parle sans casque hein, depuis un quart d'heure,
voilà.
Pour le savoir.
On a eu un petit souci.
Et on finit en musique quand même.
Ouais.
On finit en musique avec Emel Matlouti. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Thank you.